Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez passé une belle journée. On va certainement passer une belle soirée, puisque ce soir, j'ai un invité, je vous dirais que c'est moi qui s'est gâté. Je voulais vous faire plaisir, je pense que je vais vous faire plaisir, mais moi, de mon côté, je me fais plaisir aussi, puisque ça fait énormément de temps que je voulais avoir cet invité-là en ondes, et il est enfin devant moi pour les auditeurs de Boulevard 102.1. C'est l'ex-animateur de radio, l'ex-animateur de télé. C'est un ex-député de l'Assemblée nationale. C'est Monsieur le Président, un ex-président de l'Assemblée nationale, François Paradis. Salut.
Salut Yannick, content d'être là. Gastudy, c'est un plaisir pour moi aussi parce que c'est un environnement que j'adore,
ben ouais.
Que j'ai connu, dont je m'ennuie aussi, très honnêtement. Je trouve qu'il y a une motivation, un feeling, une émotion. Alors, très content d'avoir accepté. Puis, tu me permettras de te tutoyer, mais avec tout le respect que ça suppose, là. Puis je te demande de faire la même chose. Mais de fait, c'est la première que je donne depuis que je me suis arrêté. Et c'est pas rien, mais c'est quand j'ai eu l'invitation, j'ai trouvé ça sympathique. J'ai dit, ben oui, ça me tente.
Oui, c'est sympathique. C'est des podcasts, on discute de tout et de rien. Bien entendu qu'on va parler de votre carrière, peut-être votre vision de la vie présentement. T'sais, elle est un peu différente puisque là, vous avez pris du temps pour vous, pour votre famille aussi. Ça doit être un peu différent du temps où vous étiez député. En plus, président, c'était des tâches qui en demandaient beaucoup. Puis animateur de radio, animateur de télé, c'est du 7 jours sur 7. C'est 24 heures sur 24.
Puis c'est du direct.
Exact.
J'ai jamais fait d'émission préenregistrée. Toutes mes émissions étaient live. Donc, ça veut dire que quand l'émission commence à 11h30,
ouais.
Si t'es pas là, ils mettent pas des barres de couleur. Là. Alors,
c'est ça.
Faut vraiment. Alors, il y a quand même une pression.
Puis on accepte les erreurs.
Ben, c'est-à-dire qu'on vit en faisant des erreurs.
Ouais.
Je me suis toujours dit, moi, quand tu fais une rencontre avec des collègues de travail ou à la maison avec la famille, puis tu discutes. Tu ne demandes pas de recommencer la conversation parce qu'à un moment donné, tu t'es trompé sur un élément que tu aurais voulu dire autrement.
Exact.
La vie, c'est pas ça. La vie, elle est en continu. Alors, j'ai toujours pensé que c'était un peu comme ça qu'on devait se parler. Alors, j'ai eu la chance de le faire. Puis, on développe ça, hein. Je veux dire, à un moment donné, on se rend compte qu'on trouve toujours à se raccrocher quelque part, à replacer une idée, à retrouver un bon terme ou sinon à se remettre en question. Souvent, ce qu'on fait pas quand c'est préenregistré, tu sais, on dit quand il y a un échange d'idées, une confrontation d'idées ou de points de vue, d'être live, ça te permet à un moment donné de te dire en direct, ah ben là, ce qu'il dit là, ça a peut-être bien du bon sens.
Exact.
Puis je vais le dire là, puis tu changes un peu ta vision, puis tu évolues. Alors, c'est une question d'évolution. Moi, j'ai toujours aimé ça.
Oui, puis ça prend beaucoup d'humilité, hein, parce que des coups, on en prend, là, on en fait des erreurs, puis on le sait qu'on n'est pas parfait. Puis ceux qui font des émissions qui sont préenregistrées, que ce soit à la télé ou encore à la radio, tu sais, il y a beaucoup de gens qui passent sur la bande de son pour être sûr et certain que tout soit parfait en bout de ligne. Et on vous présente un produit qui est très formaté, puis pratiquement impeccable. Mais je pense que c'est ce qui fait en sorte que les gens se reconnaissent en nous, puis se sont reconnus pendant des années et des années en vous, c'est que vous étiez live. Mm. Puis les erreurs, on vivait avec, parce que ça fait partie de la vie.
Puis de faire confiance aux gens. De faire confiance aux gens qui nous écoutent, aux gens qui nous regardent. De pas sous-estimer celui, celle qui est devant l'écran à la maison, qui réfléchit, qui a envie de dire quelque chose, qui va peut-être apporter une solution, qui va nous faire avancer. Je parlais d'évolution tout à l'heure, mais de ne jamais sous-estimer celle et celui qui est à l'écoute. Et je pense que ça, les gens le sentent, alors leur donner de la place.
Ouais.
Moi, je me rappelle dans des séquences, notamment, sans aller dans le fond des choses, mais j'ai eu à rencontrer comme critique en santé plusieurs fédérations de médecins, de spécialistes, d'infirmières, de psychiatres, de ce que tu voudras. Puis la majorité du temps, les gens me disaient « Merci de nous avoir écoutés ». Pas nécessairement « Merci d'avoir trouvé la solution », parce que la solution, elle est à venir, puis elle est bonifiable tout le temps. Mais seulement « Merci de nous avoir écoutés ». Puis c'est la même chose en vie. L'avènement des réseaux sociaux, c'est génial, mais il reste que... Je m'étonne de voir souvent des gens ensemble, mais chacun braqué sur leur machine.
Ouais.
Puis pas prendre le temps de se regarder dans les yeux. Tu sais, s'écouter, c'est se regarder dans les yeux.
Mm-hmm.
C'est d'être capable de juger d'une émotion, de savoir que ce que tu dis, c'est peut-être pas vraiment ce que tu vis parce
exact.
Que je le ressens. Tu sais, mais ça, c'est ça de la communication. C'est pour ça que c'est magique, puis qu'on a toujours envie d'en faire, puis qu'on perd jamais le goût d'en faire également.
Exact. François Paradis, moi, quand François Paradis était là en politique, je pensais qu'il allait rester dans l'univers médiatique. Vous étiez quelqu'un que j'appréciais beaucoup. Vous êtes toujours quelqu'un que j'appréciais beaucoup, mais quand vous êtes lancé en politique, je me suis dit, mais pourquoi il s'en va en sciences politiques? Et ce que j'ai compris, c'est que vous avez étudié en sciences politiques.
Ouais, c'est pas le lien des études. J'ai fait sciences politiques et journalisme à l'université. c'est un concours de... C'est le chemin de la vie.
Ouais.
Moi, j'ai encore une fois, je me sens privilégié parce que j'ai toujours eu contrat après contrat, la possibilité de continuer à faire de la radio, puis de la télé, puis d'avoir des émissions qui ont duré très longtemps.
Mais c'est votre curiosité qui vous a dit, ah ben, l'Université
c'est
Laval, une en politique, ça m'intéresse?
C'est une opportunité. Ah ben non, sciences politiques, journalisme, dans mes études, c'était vraiment pour parfaire ce que je voulais devenir. Alors, j'ai obtenu mon baccalauréat, j'étais déjà à la radio, donc c'était carrément pour aller chercher de la connaissance supplémentaire, pour fouiller davantage de dossiers. Bon, alors, c'était vraiment de la culture qui m'intéressait. Par la suite, évidemment, ça me sert, mais je veux dire, le passage de la radio et des médias au monde politique, c'était un chemin naturel qui me permettait à ce moment-là de pouvoir continuer à être collé sur les besoins des gens, puis de satisfaire mon désir de continuer à aider. Il ne faut pas oublier que quand je suis allé en politique, je me relevais tout juste d'un épisode de santé assez dramatique.
Un cancer de la gorge.
Ouais, puis tu sais, autant on se disait tout à l'heure que la voix permet aux gens de nous reconnaître, puis c'est une signature en soi, c'est une empreinte digitale, vocale. Mais tu sais, quand t'as peur de la perdre, puis je dirais qu'on reste...
C'était votre outil de travail. Là.
Alors, c'est ce combat-là, à ce moment-là, qui m'a permis d'écrire un livre là-dessus. Ensuite, l'ouverture où on me demande, on aurait besoin de toi, est-ce que ça te tente? Le temps de jaser avec ma conjointe, puis dire, est-ce qu'on saute là-dedans? Mm-hmm. Puis c'était pas un plan de match, c'était pas un plan de carrière, mais on s'est dit, oui, pourquoi pas? Et ça a été... ça a super bien fonctionné.
On va en jaser tantôt. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est Ticu Paradis, qui était à Radio de Québec, qui côtoyait des animateurs qui étaient bien placés depuis longtemps, qui arrive, qui est toujours étudiant. Ça a été quoi la réception de départ? Puis c'est avec qui vous travaillez à ce moment-là?
Seigneur, écoute, j'ai tellement passé de monde.
Ouais,
j'ai fait les faits divers, moi, beaucoup aussi sur la route à gérer puis à couvrir les drames, les tragédies humaines et tout ça.
Ouais. Vous aviez 19 ans, 20
18 ans.
18 ans, wow.
À 18 ans, j'ai... Écoute, c'est une voie de passage. Mon père était professeur, mon père était poète, était écrivain.
Ah oui?
Papa avait une bonne voix, une bonne plume, connaissait le sens des mots, la puissance des mots.
C'est un artiste?
Pas mal. Et on a toujours été un peu élevés dans ça. Alors, à 18 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dans un domaine qui m'intéresse. Est-ce que je vais aux études tout de suite? Et je me rappelle, c'est un bail, là, mais d'avoir harcelé le directeur de l'information à CGRP dans le temps, à Radio Mutuelle, de l'avoir appelé à tous les jours et puis de le rappeler en lui disant, vous avez peut-être laissé un message, mais j'étais probablement pas là. Au bout de 16 jours, il n'y a pas eu le choix, il m'a rencontré, puis j'ai commencé tout de suite.
Ben, il s'est dit, Mané va arrêter de marceler.
Ben, c'est ça, on va le prendre. Fait que donc, ça a été ça, alors, j'ai travaillé avec tous ceux que les gens ont écoutés et ont connus. J'ai travaillé avec André Arthur, évidemment. J'ai travaillé avec Robert Gillet dans le temps. J'ai travaillé avec... j'ai eu mon show du matin, mon show du midi. J'ai été reporter, lecteur de nouvelles. Ensuite, rattrapé par la télévision en 84.
Est-ce que c'était des belles années de radio?
Ben, c'était des années où on se retroussait les manches.
Ouais.
Où on osait faire des choses.
On faisait tout à mi-temps.
Puis on le faisait comme on le sentait. Puis je pense que ça aussi, ça transparaissait. Les gens aiment ça quand on est dans la vie, ce qu'on est aussi sur le plan professionnel. La télé, ça a été la même chose au départ. 84, je commence à la télévision avec Platonique, ensuite avec TVA, Café Chaud le matin, l'émission du matin, avec les T-Bob et tout ça. Après ça, mes shows d'affaires publiques. Mais c'est la même chose. On prenait des risques, je me rappelle. Un discours important de Gorbatchev aux Nations Unies, puis on décide sur la gueule, à 15 minutes d'avis, d'entrer en onde, puis d'expliquer ce qui se passe. Alors, les manches houlées, on a inventé le bulletin de nouvelles en chemise, manches houlées, parce qu'on... on déployait des choses différentes, on innovait, puis on se permettait de le faire, et ça fonctionnait. On le fait peut-être moins aujourd'hui.
Oui, c'est sûr. Ben oui, effectivement. Il y en a qui réussissent quand même à faire preuve d'audace puis d'être créatif, puis ils réussissent à tirer leur épingle du jeu, mais dans ce temps-là, tout était à faire.
Oui, exact.
Tout était à faire, puis ça prenait des gens qui se disaient, oui, effectivement, on va peut-être être différent au départ, mais par la suite, les gens vont
nous adopter. Puis le milieu était riche, il y avait de l'argent aussi, là. Ouais. Il y a une notion aussi économique dont il faut tenir compte. T'sais, l'avènement des canaux spécialisés, la tarte publicitaire qui se divise davantage, l'arrivée, on en parlait, des réseaux sociaux, du net pour écouter des trucs, les gens qui aujourd'hui ont la possibilité d'enregistrer et de passer outre les publicités parce que, bon, ils veulent pas s'enfarger là-dedans, mais c'est autant d'éléments qui font que les producteurs, ceux qui, les propriétaires ont dû aussi rivaliser d'astuces pour être capables de rien que survivre. Ouais. Et on le sait, on est encore dans un combat avec ça pour sauvegarder les radios régionales, puis notre radio qui nous ressemble également.
Les gens vous percevaient comment à l'époque, quand vous étiez à la radio? Parce qu'il n'y avait pas autant de fréquences radio de disponibles. À Québec, il y avait 2-3 radios. C'était quoi la perception des auditeurs de l'époque?
C'était, t'as raison, c'était CGRP Radio Mutuelle, c'était CKCV, CKAC Radio Média, puis c'était CHRC. Alors, c'était pas mal les stations du temps et sur lesquelles les gens planchaient. Puis c'était tout le jeu aussi du AM, du FM. Ça aussi, ça a changé, évidemment.
Ouais, moi, je me souviens que dans ma famille, là, tout le monde vous écoutait du matin jusqu'au soir. Quand c'était pas dans la maison le matin, c'était directement dans la voiture. Puis au retour à la maison, des fois le soir, on allumait la radio. Puis je me souviens des images de mes oncles sur leur chaise berçante qui ouvrait la radio pour savoir qu'est-ce qui se passait. C'était tellement impressionnant.
T'as raison. Je te dirais que l'époque radio était extraordinaire parce que ça a été mon arrivée. Je suis tombé dans un moment où c'était un peu bouleversant parce que Radio Mutuelle était tombée en grève. Alors, voulant faire ma carrière, j'ai décidé moi aussi de vivre cet arrêt de travail-là. C'est ce qui m'a permis à ce moment-là de dire je m'en vais à l'université, je fais mon bac. Alors, je faisais mon bac, je travaillais en même temps, la grève s'est réglée, j'étais là, je changeais de poste de radio, ça a toujours bien été. Mais le gros élément, la grosse partie de ma vie médias, ça a vraiment été la télévision. Moi, j'adore la radio, j'adore les communications en général. Mais la télévision, ce contact étroit, quand la caméra s'allume, j'ai l'impression d'être dans la cuisine de chaque personne qui regarde ou dans le salon. Puis je me fais dire par des gens, on arrivait le midi, puis il fallait qu'on vous écoute, puis on retardait à partir pour retourner au travail pour finir l'écoute avec vous.
Ouais. Nos parents, c'était paradis à télé, puis pour nous autres, on écoutait Pierre à feu.
Ouais, ben oui, mais remarque que j'ai quelques bonnes caricatures de moi en pierre à feu, là, parce que, tu sais...
Ils se sont amusés avec ça?
Non, mais c'était dans le temps des concurrents sérieux.
Ben oui.
Il y avait mon émission d'affaires publiques, mais celui qui tirait en deuxième, j'ai toujours été chanceux, on a toujours été premier en cas d'écoute. Mais les pierres à feu, ça suivait, c'était deuxième, là, tu sais, je veux dire... alors, c'était le combat du midi, est-ce que l'enfant allait gagner l'écran de télé pour écouter les pierres à feu, ou c'est les parents qui allaient gagner cette bataille-là, puis ouvrir ça sur des affaires publiques.
Les meetings de sondage devaient être assez particuliers. Là. François Paradis, tu dois battre les pierres à feu. C'est pas François Paradis, tu dois battre Yannick Untel à TQS. Là. C'était, non, François Paradis, tu dois battre les pierres à feu.
Ben, sais-tu, je pense que c'est ça aussi, c'est une vision que j'ai toujours eue, puis que je maintiens, puis que je maintiendrais si je revenais du côté de la télé ou la radio. J'ai toujours eu pour mon dire que tu fais le maximum de ce que tu veux faire, de ce que tu peux faire avec les qualités que tu as, puis en poussant ton équipe à travailler pour les bonnes raisons. J'ai jamais travaillé en me disant « faut que je batte quelqu'un ». J'ai jamais même négocié un contrat en me disant « j'aimerais savoir des bonus de performance ». Parce que je me disais, et je disais aux gens « pourquoi vous me donneriez un bonus de performance dans la période des sondages alors que je me donne à 100% tout le temps? Alors, ma performance, elle est au quotidien. C'est comme ça que je le fais, c'est comme ça que je le vois. Puis quand on complétait une émission, on arrivait à 7h30 le matin avec l'équipe. On n'avait pas de sujet. Alors, on décidait le sujet à 7h30 le matin. Fallait que mon équipe trouve mes invités pour être en onde à 11h30. Alors, t'appelles les gens, tu leur dis pas c'est pour demain. Tu leur dis c'est pour dans une heure, dans deux heures. Alors, il y avait une pression sur ce qui faisait vibrer les gens le matin même dans le monde de l'information, quel que soit le domaine, que ce soit santé, judiciaire, justice, sociale, bon, etc. Alors, et quand on terminait l'émission... J'avais rarement de grands débriefings parce que je disais, on a tout donné, maintenant reposons-nous, il faut qu'on recommence demain. Alors, j'étais conscient, à moins qu'il y ait eu quelque chose qui ait vraiment mal fonctionné. Alors, j'ai pas vraiment jamais eu l'impression de me dire, faut que je batte quelqu'un. Puis je me suis jamais vraiment non plus, sinon que de le savoir puis de me le faire dire, parce que vous recevez les sondages pour savoir ce que ça donne, mais j'ai jamais couru après ces résultats-là en me disant, où est-ce que je me positionne? Puis on a été, je pense que ça a été payant parce que... Puis en même temps, j'avais une émission qui me permettait de faire ce que peu de gens pouvaient faire. C'est-à-dire, les gens me rejoignaient par téléphone, les gens me rejoignaient par... Au début, par fax. Écoute, on avait des rouleaux de fax. Et que ça s'enroulait, les derniers fax, c'était dur à lire, c'était sur une espèce de papier un petit peu blanc ciré, là, tu sais, au départ. Ensuite, on est tombé avec les réseaux sociaux, les courriels, mais là, on lisait en direct ce que les gens nous disaient, live, puis là, en travers, on prenait un appel, puis souvent, l'appel qu'on prenait, ça devenait mon meilleur invité. Je parlais, par exemple, d'une dure réalité de violence, par exemple, conjugale, puis soudainement, j'avais quelqu'un qui était en train de le vivre. Puis j'avais un agresseur qui m'appelait pour me dire que j'étais un écœurant parce que il y avait l'impression que je le pointais du doigt. Puis au lieu de raccrocher, je me rappelle d'avoir dit à mon recherchiste qui était au filtrage téléphonique, « Non, non, laisse-le là, on va se confronter. »
Exact.
Puis là, j'ai dit, « Gars, qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème? »
C'est la vraie vie.
Imagine-toi la magie. T'es nourri par les gens sentent que tu les écoutes, ils savent que t'es pas nécessairement, puis que t'es pas d'accord avec eux, mais il y a une notion, puis je pense que c'est une notion importante dans le milieu, puis dans la vie en général, moi, c'est le respect. Alors, tant que quelqu'un te manque pas de respect, t'es capable de positionner, d'argumenter intelligemment. Et ça, c'est la notion d'une communication réussie, puis c'est la communication d'un couple réussi, puis de volonté parentale réussie, c'est le respect.
Vous avez dit tout à l'heure, j'ai pas mal toujours été chanceux, j'ai toujours été numéro un. Ça a toujours bien été pour moi. Quelle est la part de la chance dans votre vie? J'ai pas l'impression que c'est dû à la chance, j'ai l'impression en vous écoutant que c'est dû à l'acharnement au travail, puis à votre vision peut-être des choses par rapport à la compétition, c'est-à-dire pas nécessairement vouloir battre l'autre statut, mais devenir la meilleure version de nous-mêmes puis aider les collègues de travail à être aussi la meilleure version de nous-mêmes.
T'as raison, on s'en réjouit. Le résultat, on s'en réjouit, c'est bien sûr. Mais c'est une façon de parler. Hein. Souvent, je dis ça, je suis chanceux. Je croise les gens, on est toujours avec un sourire. Je fais mes courses, les gens m'arrêtent, vont me faire un commentaire. Puis je suis vraiment chanceux.
Ça, pour vos enfants, ça devait être achalant. Là.
Ben, j'ai un fils.
Le père qui se fait tout le temps achaler par tout le monde.
Non, parce que ça dépend. Non, très honnêtement, parce que ça dépend comment ils sont élevés là-dedans.
Oui.
Puis c'est pas de... C'était
mais
pas,
il n'a pas choisi, lui, d'avoir un père à la télé.
Mais moi, William, à 4 ans, je faisais faire de la télé. Il est dans les shows juste avant la période de Noël.
Ouais.
On faisait l'analyse des jouets qui étaient mis. C'est William qui testait. Alors, il était sur le plateau avec moi.
Exact.
Alors, il a fait de la télé un peu avec moi et de la radio. Mais c'est, je pense que c'est encore une question de relation humaine avec les gens. Les gens te reconnaissent pas comme un animateur qui est différent d'eux. Ils considèrent que tu es dans leur maison, dans leur famille,
une
connaissance. Ouais. C'est pour ça que les gens s'arrêtent et me disent François, tu sais, hey, François, il y a des gens qui pensent que je suis encore à télé. Les gens, non, écoute, les gens me disent moi, je vous écoute tous les jours.
Je vais vous donner une qualité, là. Vous n'avez pas changé de iota. Sur 20 ans, là. Vous avez encore le même visage, vous avez encore la même belle grosse voix, vous avez encore les yeux qui brillent, ça n'a pas changé. Il y a peut-être la couleur de cheveux, peut-être qui a changé un petit peu, là. Mais vous avez encore le même visage.
Moi, mon père avait les cheveux blancs à 37 ans. je me défends avec ça.
On a l'impression que vous ne nous avez jamais quittés. Ouais, même si vous êtes allé à l'Assemblée nationale, vous étiez président, vous deviez être très, 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 très réservé. On a l'impression que vous n'avez jamais quitté.
En tout cas, ça, et c'est peut-être pour ça, et je le disais d'ailleurs, tu me vois depuis tantôt, je le remarque, mais en tout cas, c'est pas grave, je me tutoierai à un moment donné quand ça te tentera.
Ouais, je devrais peut-être faire des efforts, vous êtes plus politicien, donc vous pouvez redevenir mon ami.
Mais je pense que c'est un petit peu la perception des gens, puis comment tu t'adresses aux gens, puis comment tu aimes, comme... Moi, j'aime le monde.
Ouais.
Ça, fondamentalement, je crois aux gens. Tout ce qui se fait n'est pas parfait, puis il y en a qui sont moins corrects que d'autres, puis il y en a qui sont hors circuit totalement, mais ceux-là, ils font pas partie de ma vie comme telle. Je réfléchis, je prends des positions, j'analyse, mais le contact avec les gens, si tu restes ce que tu es, si tu joues pas de jeu, si t'es pas... Puis de toute façon, là, les gens qui t'écoutent maintenant et qui nous écoutent là aujourd'hui, ils sentent si on n'est pas vrai.
Exact.
Tu le sens quand quelqu'un triche.
Ouais.
Tu le sens, pas rien que dans les yeux. Moi, je dis souvent, prenons le temps de nous regarder. Puis, je te disais, analyser une émotion, faire confiance au silence, on a cette fâcheuse habitude-là d'avoir peur du silence. Chaque fois que tu es quelque part avec quelqu'un, puis qu'il y a une séquence où là, il ne se dit plus rien, on panique. Les gens paniquent, il faut qu'ils trouvent des mots à dire pour remplir le silence, parce que le silence, il est oppressant, mais le silence, il est révélateur. Le silence, il te donne le temps de réfléchir. Moi, je me rappelle, dans des émissions très émotives, puis écoute, j'ai fait Opération France-Soleil pendant 11 ans, accompagné des enfants qui, pour plusieurs d'entre eux, sont décédés. Moi, j'ai une histoire, je l'ai contée en quittant l'Assemblée nationale, mais j'ai une histoire, bouleversante de Mélanie, une petite fille que j'ai rencontrée au centre hospitalier de l'Université Laval, qui combattait un cancer féroce, agressif, à qui j'avais demandé de faire une émission avec moi parce qu'elle avait une flamme dans les yeux, une petite fille de 12 ans. Et soudainement, j'apprends qu'elle laisse tomber tous ses traitements parce qu'il
n'y
a plus rien à faire. Elle prend la décision, elle, puis elle sait déjà où elle va être enterrée, puis elle sait déjà comment ça va se passer. Puis à 12 ans, puis là, le jour de sa mort, puis là, il est venu à la maison, puis etc., mais la nuit de sa mort, à 3 heures du matin, je reçois un téléphone, c'est sa mère. Puis la première chose que j'avais dit à Mélanie, à l'hôpital, parce qu'elle avait plus de cheveux, j'avais dit, t'as donc bien des belles boucles d'oreilles. Parce qu'elle avait plus de cheveux, son pyjama, puis ça a dit, oui, mais j'ai plus, je mets mes boucles d'oreilles, j'ai plus de cheveux, puis je suis une petite fille, puis tout ça, puis j'ai dit, elles sont très belles. Et la nuit de son décès, sa mère me dit, Mélanie t'a laissé les boucles d'oreilles. Écoute, je les avais dans mes poches quand j'ai quitté l'Assemblée nationale, puis j'ai fait mon petit discours d'adieu aux collègues, là, en me disant que, bon, je quittais, là, puis je ne reviendrai pas. Elle était dans mes poches, tu sais, puis bizarrement, regarde comme c'est drôle, parce que. Depuis ce temps-là, puis je te le dis, c'était le premier à qui j'ai dit ça, mais j'ai toujours conservé cette boucle d'oreille-là, je ne sais plus où ils sont. Puis je me dis, c'est peut-être, c'est de l'autre ce que je veux dire là, mais tu sais, je me dis, c'est peut-être pas pour rien. J'ai tout franchi, j'ai atteint ce que je souhaitais atteindre. Mélanie m'a accompagné même dans ce dernier moment-là, parce que c'était important qu'il y ait ce sentiment-là, cette émotion-là, ce trait humain-là. Puis là, vois-tu, j'ai troupé la boucle d'oreille, puis je me dis, c'est pas grave, là. Elle est là tout le temps, mais tu sais, mais vois-tu les liens qu'on crée?
Sûrement. Puis, tu sais, moi, j'entends plein de choses dans ce que vous me dites, tu sais, parce que j'ai eu ces discussions-là avec mes gars concernant la vie, tu sais, parce que les enfants considèrent que la vie doit être juste. Puis les adultes aussi, parfois, tu sais, je suis gentil, donc la vie va toujours être juste avec moi, puis je leur dis tout le temps, ben non, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient injustes envers vous. Ces gens-là peuvent faire des erreurs, ils ont le droit, votre père va faire des erreurs, vous allez faire des erreurs. Puis quand j'entends que des enfants de 12 ans doivent décider du moment où ils vont mourir, de l'endroit où ils vont mourir, de l'emplacement qu'ils aimeraient avoir, qui commencent à donner leur cadeau, leur objet précieux à des gens qui ont été marquants, moi, je trouve ça foncièrement injuste. Et tu sais, juste d'entendre cette histoire-là, je l'avais déjà entendue, pour être honnête, là, de votre bouche, mais je trouve ça cruel. Puis vous avez vu, tu sais, vous avez toujours été positif tout au long de votre vie, tu sais, puis il vous est arrivé quelque chose d'aussi injuste. Là, tous ceux qui nous écoutent, qui ont déjà eu un cancer, ou quelqu'un proche qui a un cancer, ouais. Je veux dire, quoi de plus triste que d'apprendre qu'on est peut-être décompté, ou qu'on a une maladie qu'on va devoir combattre. Puis, tu sais, souvent, on voit dans le journal, on voit de moins en moins, parce qu'il est de moins en moins à papier, mais a perdu son combat contre le cancer. Moi, c'est pas... il a lutté contre le cancer.
Ouais,
est-ce qu'il
ouais.
a perdu? J'enlèverais le mot perdu, mais il a lutté contre le cancer. Ça a dû être un choc pour vous qui semblait être toujours positif par rapport à l'avenir, d'avoir un cancer. Puis en plus, c'est un cancer qui menaçait votre vie, votre travail?
Ouais, ben écoute, je me rappelle de m'être posé la question. Je me disais, ben si jamais il arrive quelque chose, puis que le traitement ne fonctionne pas, ben je pourrais toujours donner des conférences. Je me disais, ben non, je ne peux pas donner des conférences. C'est
ta voix.
Pour enseigner, ben non, ça ne marche pas non plus. Puis tu vois, je me suis déjà, moi, essayé, je me rappelle, on était en travaux à la maison, on faisait un agrandissement à la maison, puis j'ai voulu aider les travailleurs qui étaient là. Puis j'ai fait ce qu'on appelle la couche de fond, là, le primer sur un mur. Ils l'ont repris tellement c'était mal fait. Hey, c'était couche de fond, imagine-toi. Hey, non, mais sérieux, c'est que tu sais, j'ai pas de talent là-dedans. Bien que j'ai développé certaines habiletés, là, depuis que j'ai arrêté, là, j'ai quand même changé des luminaires, tout ça, ça a super bien été. Mais ceci étant, t'as raison. Mais c'est pas rien que pour celui qui le vit. C'est pour ceux qui nous accompagnent. Quand j'ai écrit mon livre qui s'appelle « Ma job ou ma vie », c'était pour dire merci. pour dire comment on se sent, bien sûr, mais pour dire merci. Quand tu regardes ta conjointe, quand tu regardes un ami, puis que tu le regardes, puis tu le supplies quasiment de te dire ce qui va se passer, puis si ça va bien aller, la pression sur les épaules des aidants naturels, la pression sur les épaules des parents des enfants que j'ai accompagnés, la pression sur le couple ensuite, la culpabilisation, c'est énorme. Puis on prend pas le temps de s'arrêter. Mais dans la vie de tous les jours, Yannick, je veux pas avoir l'air plus fin que les autres, là, puis je le fais peut-être pas suffisamment, mais de prendre quelques minutes pour dire à quelqu'un, « Hey, Trump, tu fais de la bonne job. » Puis, « Hey, gars-toi, là, aujourd'hui, là, ce moment-ci, c'est mon moment de bonheur, puis c'est toi qui es dedans. » Tu sais. Et ça, là, de valoriser les gens qui nous entourent, puis c'est un autre problème de société. Ce qu'on a beaucoup vécu ces temps-ci dans des emplois extrêmement demandants, où il y a eu des difficultés, puis il y en a encore, les gens, dans le premier élément qu'ils demandaient, d'abord et avant tout, c'est valoriser la profession, valoriser ce qu'on fait. Puis quand tu es valorisé, puis tu te fais dire, Yannick, t'es important pour nous autres, parce que le travail que tu fais, les gens, ils s'en souviennent, puis tu portes l'image de la station, puis tu la portes sincèrement, puis de belle façon, t'as rien qu'envie de te donner plus. Ah, c'est ça aussi. Fait qu'effectivement, le livre, c'était un peu ça. Oui, ça a été un méga choc, parce que je l'ai appris assez drûment, comme on dit. Je me rappelle d'être à la maison, tourner en rond, les lumières fermées, puis d'appeler
mon fils. Vous tournez en rond, votre tête tourne en rond, les vies qui vous accompagnent tournent en rond.
Non, c'est ça. C'est que c'était... mais en même temps... mais tu sais qu'on reste vulnérable, hein? Je te dirais, cette semaine, j'ai un rendez-vous d'appoint, encore une fois. Ça fait longtemps, moi, là, c'est que tout est beau, mais j'ai encore une fois le privilège d'avoir quelqu'un qui me vérifie à l'occasion, tu sais. Mais écoute, là, moi, la semaine avant, c'est une semaine d'enfer, là. J'ai l'impression que j'ai plus de voix, là. Je dis à ma conjointe tous les jours, t'es sûr, je suis correct, là, tu sais. Non, mais sérieux, je suis fatiguant, comme ça se peut pas.
Elle doit comprendre aussi en même temps.
Oui, mais on demeure fragile, mais c'est une épreuve, puis d'où l'importance du témoignage de cette petite fille-là, qui le jour où on a fait l'émission avec elle, une caméra, elle et mon caméraman et moi, on a fait une entrevue ensemble sur sa vision, sur la vie, sur la maladie, ce que tu voudras. D'où le fait qu'on a eu des centaines et des centaines de courriels, de lettres, de messages, de gens qui traversaient une épreuve, qui disaient « Merci de nous apprendre des choses. » Mais ça demande de l'introspection. C'est pas facile. Puis ça demande de l'accompagnement. Puis c'est pas facile non plus. Puis tous ceux qui traversent des éléments comme ceux-là, tous ceux qui sont des aidants, des proches aidants, chapeau puis bravo, à défaut de vous le faire dire assez souvent, ben moi, je vous le dis au nom de tout le monde, parce que c'est souvent la différence.
J'ai la chance, par mon métier, de côtoyer des animateurs de radio du temps. Vous étiez animateur de radio, j'ai côtoyé aussi André Arthur, j'ai travaillé avec André Arthur, puis j'ai rencontré Rémi Danjou.
Oui.
Et Rémi Danjou, il y en a qui ont eu des bonnes expériences avec Danjou, il y en a qui ont eu des mauvaises, mais moi, somme toute, elle était positive, puis il m'avait dit, par rapport à son cancer, « Yann, ça n'a pas de bon sens. J'ai pogné un cancer qui va m'empêcher de travailler si je guéris après. » Puis là, après ça, ben, il savait qu'il était décompté, donc ça a été un petit peu plus dur pour lui, mais je voyais qu'il trouvait ça vraiment injuste, là. On lui enlève son outil de travail. C'est comme si on disait à un menuisier, t'as plus le droit de travailler avec un marteau. Ouais.
Bon, ben, c'est fondamentalement, tu sais, c'est sûr que fondamentalement, c'est facile de se questionner pourquoi. Tu sais, la fameuse question, là, quand quelqu'un a quelque chose, pas seulement ce type de maladie-là, n'importe quoi, bon, des gens qui ont des maladies dégénératives, tout ça, puis tu te demandes, les gens disent, qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour avoir ça? Puis c'est-tu un message qu'on m'envoie? Je pense au sortir de cette bulle-là aussi, à un moment donné, parce que tout ne s'explique pas. Exact. On n'est pas responsable de tout non plus. Puis à un moment donné, il arrive quelque chose, puis au meilleur de ta force, puis des gens qui sont avec toi, tu relèves le défi, puis tu suis le chemin qu'on te propose, puis il faut faire confiance. Il y a un élément pour la... Écoute, il y a quelques années de ça, j'ai les images de ça. Moi, j'ai fait de la plongée sous-marine longtemps, j'ai fait pas mal tous les sports un peu fous. Et je décide, pour la fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, pour le nouveau centre intégré de cancérologie, il y a une levée de fonds, et on me demande si je veux m'impliquer, puis bon, etc. Alors, assurément, je décide qu'on va faire une plongée sous glace. Écoute, on plonge au lac de l'Arche, tout un setup, là, tu sais, écoute, la glace, elle est épaisse comme ça, puis il y a du monde, là, tu sais, puis pour me réhabituer, j'ai fait de la plongée longtemps, mais ça faisait un bout de temps que j'en avais pas fait, je suis allé plonger à l'Aquarium de Québec, on déplaçait le morse dans la piscine à côté, puis je te dansais la piscine à lui.
Il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça.
Non, mais écoute, là, les morses me regardaient, je pense qu'il y en a un qui était en amour avec moi, et c'était vraiment drôle, et, mais le matin qu'on décide de faire ça, il fait moins 36.
Ouais, à l'extérieur.
À l'extérieur. Et là, je m'habille, puis tout ça, puis... le jeu, l'idée pour moi, c'est d'aller dans de l'inconnu, tu sais, dire aux gens, ouais, regardez, ça représente l'inconnu. Puis là, il faut que tu fasses confiance. Tu fais confiance à ceux qui t'accompagnent, tu fais confiance à ceux qui sont à la surface avec la corde parce que tu vois rien en dessous. Il faut que tu fasses confiance à l'équipement. Puis ça a été tout croche. Je plonge, le détendeur gèle, c'était trop froid, etc. L'air sort sans arrêt, je peux plus respirer, je remonte, on met une nouvelle bouteille, je redescends, ça va pas mieux. Écoute l'enfer. Mais après ça, quand tu regardes, je dis aux gens, voyez-vous, c'est ça. L'équipement, il a flanché. Je fais quoi? Je veux dire, il y a des gens qui m'ont sorti de là. Il y a des gens qui m'ont pris en charge pour faire en sorte que ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné comme on voulait, alors on recommence. Mais tu sais, c'était le jeu aussi de la vie, des traitements, des opérations, exact, des maladies, où à un moment donné, tu fais confiance à la médication, au médecin, ou... C'est ça. C'est qu'on on a fait une... Écoute, la vidéo est superbe. Mais honnêtement, ça a été le reflet de... Parce que pendant les traitements, je vous rappelle, je suis dans une machine, je fais de la radiothérapie, alors je suis dans une machine, je mets la numéro 1, puis soudainement, j'apprends que le lendemain, je vais être à la 3. Puis là, dans ma tête, puis j'en ai dit, je me dis, dans 3, elle est peut-être plus forte parce que ça va mal, tu sais. Alors, tu te poses des questions,
ouais,
puis tu réponds à tes propres questions, puis tu t'en vas dans un mauvais chemin, c'est que c'est ça, tu sais. Encore une leçon de la vie. Quand tu doutes de quelque chose... Pose la question à la bonne personne.
Ouais.
Puis si tu n'as pas compris ce qu'elle dit, ben demande-y de répéter. Puis souvent, quand j'avais des rendez-vous pendant les traitements, ma conjointe venait avec moi, elle dit « Non, je vais y aller parce que tu comprendras rien, tu retiendras rien, je vais être là pour retenir à ta place. » Fait que c'est toutes des leçons de vie. Hein. C'est des leçons de vie avec un enfant qui ne va pas où tu veux, un enfant qui ne réagit pas comme tu souhaiterais, quelqu'un qui un collègue de travail que tu vois sombrer pour un million de raisons, quelqu'un qui, au contraire, va très bien. Tu sais, c'est ça, hein, l'entraide, c'est ça, mais c'est bien d'être attentif à ce qui nous entoure.
Avez-vous refait de la plongée sous-marine de plus?
J'en ai fait dans le sud, j'ai fait beaucoup, je me suis tapé un beau petit voyage, j'ai cassé un peu notre climat qui est un peu fou, là.
D'ailleurs, je suis jaloux de votre teint de peau.
Ouais, ben c'est ça, je suis chanceux, là. J'ai passé un mois au soleil, mais à faire beaucoup d'apnée, là, ouais.
Mais moi, c'est le seul sport loisir, entre guillemets, la plongée sous-marine, qui m'a apporté une quiétude.
Ouais.
Que je suis pas en compétition avec rien d'autre. Je suis avec mes instruments dans le fond de l'eau. Je suis dans un univers totalement différent de celui que je peux vivre sur Terre. Et je me dis, ce que je vis là, présentement, il n'y a pas grand monde sur la Terre qui le vit.
Et tu sais, c'est un sport de paresseux, hein?
Ouais.
Moi, j'en ai fait beaucoup, pas mal, partout. De la plongée profonde, de la plongée de nuit, de la plongée sous glace...
On se concentre sur notre respiration.
Mais c'est ça. Puis il ne faut pas que tu... Écoute, je dis aux gens, là, non, je ne joue pas le jeu de gagner le 100 mètres en plongée sous-marine. Là, tu te laisses aller, tu te laisses porter, t'observes, et puis c'est un monde différent. Puis on a des beaux endroits au Québec aussi, là, pour plonger, Lanceau-Basque.
Oui.
C'est magnifique. Puis c'est des fonds qui sont à 45-50 pieds. Là, pas obligé de descendre à 110.
Ben,
là,
juste aux Escoumins, la visibilité est exceptionnelle. Puis les couleurs aussi, j'ai un de mes amis.
Tu plongeras à Tetford c'est là, dans la mine, Tetford Mines.
C'est Flynn Coat.
Écoute, c'est vraiment là, la visibilité. Là, j'ai descendu plus profond dans celle-là, mais 75 pieds de visibilité à 80 pieds de profondeur. Là, c'est
avez-vous vu le seul poisson à Flynn Coat qui vient vous voir?
Non, je l'ai pas vu. Non, il était parti cette journée-là. Je pense qu'il est allé magasiner.
Je pense que c'est un masqui. Lui, il accompagne les. C'est un petit masqui. Il accompagne les plongées. Là. Il accompagne les plongeurs. Puis après ça, ben, il s'en va sur un autre plongeur. Puis lui, c'est.
Fait que j'ai laissé sa journée. Ouais. J'ai adoré ça, mais j'ai laissé. Parce qu'il faut toujours plonger à deux là-dedans.
Ouais,
mon body diver est parti à l'extérieur. Alors, à un moment donné, j'ai un peu laissé. J'en ai refait pour le plaisir en loin de l'équipement. Mais ça, le parachutisme, j'en ai fait pour une bonne cause également. J'ai sauté aussi, le saut à l'élastique, etc. Mm-hmm. J'aime ça. tenter des choses.
Dernière question, après ça, on va faire une petite pause, puis après ça, on va vous brasser un peu, on va parler de politique en général, puis de ce que vous avez trouvé de votre passage en politique, ce que vous retirez comme expérience. Les médias, autant la télé que la radio, c'est peut-être un peu moins vrai pour ce qui est de la radio à Québec, parce que je pense qu'on est isolé par rapport au reste du Canada pour diverses raisons, mais la distance que les médias ont pris envers leur auditeur ou envers leur téléspectateur, est-ce que vous avez l'impression que c'est ce qui fait en sorte que les gens ont un petit peu décroché?
Bon, exprime... Regarde-tu, quand je disais, à un moment donné, tu veux vraiment comprendre le sens d'une question, on ouais. demande de la reposer.
Pourquoi ça pas moins qu'avant?
Ben, je pense que... Écoute, il y a une abondance de choix maintenant.
C'est la diversité.
Ben, il y a une abondance de choix. Qu'on parlait un menu gastronomique, un buffet. T'as un buffet, t'as 35 plats différents. C'est de ouais. fortes chances que tu essaies de goûter des trucs, puis comme un moment donné, tu dilues un peu l'assiette que t'aurais prévu quelques années auparavant. Il y a ça. Il y a tout le phénomène du fait que les gens font de l'écoute à retardement également aujourd'hui. On enregistre, il y a des contenus qui te sont proposés à travers des chaînes, puis on en parle tellement ces temps-ci, que ce soit à Prime Video ou à Netflix ou à Apple TV ou etc., qui viennent aussi jouer dans le portrait. Alors, les gens sont bien regardés davantage de séries, puis les émissions qu'on faisait, on les fait moins. Moi, je veux dire, honnêtement, je me rappelle d'un concept que j'ai encore à la maison, qui serait probablement encore très bon, donc je le garde dans mes trucs, mais tu sais, il se produira peut-être jamais, mais de revenir à des émissions de rencontres, comme on fait là, de face à face, de se donner du temps. Je parlais de la mienne. Oui, il y en a qui se font encore, tant mieux, là, mais il y en avait probablement potentiellement davantage. Mais des émissions où les gens sont émotionnellement accrochés puis se sentent participatifs, il y en a peut-être moins. Puis il y a la course aussi à... je l'ai dit tantôt, c'est un monde difficile. Tu sais, maintenant, il faut chercher la rentabilité.
Parce que moi, quand j'écoutais François Paradis à la télé, je savais que l'émission est enregistrée de Québec.
Ouais.
Je savais qu'il était chez nous, je savais que l'animateur qui était en place, il vivait à peu près la même chose que moi je vis dans ma région. Je pouvais peut-être le voir au Nordique, je pouvais peut-être le voir au Rempart, malgré que les Remparts c'était les cascades de Beauport dans le temps. Là. Mais je savais que vous viviez à peu près la même chose que moi, puis c'est une émission qui est enregistrée à Québec. Puis ça faisait pour moi une différence.
Ça fait du sens pour toi.
Je suis incapable d'entendre quelque chose qui se passe à Montréal, puis qui concerne les gens de Montréal, alors que je suis à Québec. Puis c'est la même chose pour les gens de Montréal. Québec, oui, c'est correct, là, c'est une ville par là-bas, mais parle de chez nous, parle de ce que je vis, dis-moi ce qui se passe dans les restaurants, c'est quoi?
Mais je te dirais, là-dessus, vois-tu, ma vision, c'est que les problématiques humaines, ou en tout cas les dossiers fondamentaux qui font vibrer les gens, sur lesquels les gens s'accrochent, c'est ce qu'on faisait le matin quand on se réunissait à 7h30, on passait en revue, on disait, de quoi les gens vont parler ce matin? C'est pas nécessairement la page frontispice, c'est pas nécessairement le lead du bulletin d'information. De quoi les gens ce matin vont parler à la maison en déjeunant, juste avant de partir, en prenant leur café? Ça devenait un sujet du jour. Ensuite, c'est l'effort que tu vas mettre pour, je vais employer le terme, il est pas bon, là, mais régionaliser l'information, faire en sorte qu'elle ressemble aux gens à qui tu t'adresses. Moi, il y a des gens qui disaient, bon, vous êtes produit à Québec, puis il y a des gens qui me disaient, vous êtes produit à Montréal.
Oh, ils ne faisaient pas la différence.
Non, absolument pas. Sérieux. Je veux dire, il y a des gens qui pensaient que j'étais où ils et elles étaient.
Ouais.
Mais parce qu'à un moment donné, tu fais abstraction de ça. Puis quand tu tombes sur des dossiers, des sujets qui... c'est bien sûr que si tu parles d'un nid de poule dans le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, puis tu passes ton heure là-dessus, tu as tout à fait raison. Mais si tu parles de l'état des routes au Québec...
Ça, c'est général.
Ben, je m'excuse, tu sais, je veux dire. Puis là, tu demandes aux gens, tu sais, comment ça se passe chez vous, puis est-ce que ça roule bien autour de chez... Puis là, les gens embarquent, puis t'es mets à partir, alors tu nationalises, le sujet devient provincial, les gens sont tous touchés, alors ramène ton sujet. Il n'y a pas un sujet, rarement, il n'y a pas un sujet qui se limite avec des frontières, que ce soit dans le monde judiciaire ou dans le monde de la santé. Il y a une problématique, par exemple, dans un centre hospitalier ici à Québec, tu le prends comme amorce, mais ensuite, dis-toi, est-ce que ça se passe tout de même chez vous aussi? Puis avez-vous trouvé des solutions dans les CHSLD? Y a-t-il des places où ça va mieux? Comment se sent votre mère dans l'endroit où elle réside maintenant? On a un problème à Trois-Rivières, on en a peut-être un à Québec. Est-ce qu'on ça va mieux à Rimouski? Et là, les gens finissent par partager leurs connaissances. Puis t'en as plus de problème de frontières à ce moment-là. Fait que c'est un peu notre travail, je pense, de faire en sorte qu'on puisse sortir de ça, puis en même temps montrer que le problème ou la situation qui nous intéresse à Québec, elle est aussi importante que celle qui intéresserait des Montréalais d'origine et qui s'attardent seulement à ce qui se passe chez eux. Je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que les gens élargissent puis de faire que le sujet soit intéressant.
On a le plaisir de jaser avec François Paradis, que vous avez entendu pendant des années à la radio et la télé, qu'on a vu à l'Assemblée nationale pendant plusieurs années aussi. On va faire une courte pause. Juste avant, vous avez deux choix de réponse. Est-ce qu'un jour, on va réentendre François Paradis quotidiennement à la télé ou à la radio? Premier choix, oui. Puis deuxième choix, oui, non.
Est-ce que je peux jouer un joker là-dessus?
Ben, allez-y.
Non, mais sérieux, je sais pas. Là, ça fait un an là, que je suis arrêté. Je serais bien menteur, puis mauvais menteur, de dire que j'ai pas du plaisir à faire ce qu'on fait là. Puis j'aurais définitivement du plaisir à pouvoir échanger avec des gens là, tu sais, puis de bâtir, puis de pousser une émission, puis ouais. De les faire. C'est sûr que la piqûre, elle m'a toujours habité. J'ai fait ça toute ma vie. Mais pour l'instant, je suis en train d'apprivoiser le temps.
Ouais.
Je suis en train, c'est niaiseux à dire, mais j'apprivoise du temps. Le temps avant, là, il est là, c'était comme un papier de musée. C'est comme ta vie, c'est comme la vie de bien des gens qui nous écoutent.
Ça, je veux dire, bon,
mais là, j'ai du temps, puis il faut vraiment que je m'adapte. Puis okay. Les passions que j'avais quand je me disais, le jour où je m'arrêterai, j'ai tellement de passions qu'il n'y aura pas de problème. Je suis en train de me rendre compte que quand je joue mon djembé, parce que je fais des percussions, ou quand je m'amuse dans mes technologies, puis quand je game, parce que je suis un gamer, puis etc.
Vous jouez à quoi?
Alors, j'ai mon PS, mon PlayStation, puis je suis dans tous mes jeux.
Est-ce que je vais avoir la chance de vous battre à NHL 2024?
Non, mais sais-tu pourquoi je suis moins sport? Parce que mon fils est trop bon.
Okay.
Il a les pouces trop rapides. Moi, j'ai les pouces pas assez rapides. Je suis plus dans les jeux d'aventure. Je suis okay. Dans du Call of Duty. Je suis dans tous ces trucs-là que j'adore. Horizon, tout ce qui sort.
Mais là, est-ce que vous jouez sur la toile contre d'autres personnes?
Non, je joue moi les campagnes solo, etc. Pas avec d'autres, okay. mais je suis un maniaque. Tout ce qui sort, je trouve que le génie humain est extraordinaire. Là, je m'amuse avec l'intelligence artificielle ces temps-ci, voir comment ça répond, jusqu'où ça peut aller. Ouais. Je drone aussi, j'ai du plaisir à droner. J'apporte mon drone partout où je vais, puis je fais mes images, je fais mes montages de voyage également.
Okay.
Mais je ne vis pas ces passions-là comme je les vivais quand je travaillais. Parce que quand tu finis de travailler, t'as un 2 heures, puis tu dis là, pendant mon 2 heures, je joue ma guitare, tu sais. C'est une évasion. Mais quand t'as plusieurs 2 heures dans la journée,
ouais.
Tu le prends pas de la même façon. Il y a une adaptation.
Okay.
Et c'est vrai, je pense que les gens le disent souvent, là, quand on s'arrête, il faut donner le temps d'apprivoiser cette nouvelle façon de faire. Là. Alors, est-ce que je reviendrai un jour? Écoute, faut jamais dire non à rien.
Nous, on a le droit de se le souhaiter.
Faut jamais dire non à rien.
Voilà. OK, hey, on fait une courte pause, on vient.
Qu'ils y ont dédié une fin de semaine complète.
Venez déguster des produits de l'érable et découvrir les spécialités des exposants. Par la suite, gala d'humour avec Louis-José Houd et Patrick Groux. Prestations d'Éric Lapointe et Zone familiale combleront votre trop-plein d'énergie. Boulevard 102.1 et le Festival Beauceron de l'érable, partenaire de votre sucrage de bec.
Chez Sport Expert et Atmosphère, ne manquez pas nos meilleures offres de la saison avec la grande vente d'hiver finale. Jusqu'à 50% de rabais sur une vaste sélection de manteaux, bottes et équipements. Détails en magasin.
Ouvrez la porte à une aventure palpitante en famille pendant la relâche chez Défi Évasion Québec et Lévis. 12 jeux d'évasion aux univers captivants où énigmes et mystères vous attendent à chaque recoin de la pièce.
Réservez au défi-évasion.com.
Défi Évasion, créateur d'émotions.
Podcast. Salut, c'est Sam Tremblay-Michaud, chroniqueur automobile dans Gravel dans le retour. Embarquez avec moi dans mon tout nouveau podcast. On va faire une méchante belle ride ensemble et on va jaser de char. C'est pour tout le monde, que vous soyez un connaisseur ou non de l'automobile. On va assurément découvrir des choses ensemble.
Le Roadcast Boulevard 102.1. En ondes tous les mardis, 19h. Aussi disponible partout sur Spotify, Apple Podcasts et YouTube.
Une présentation de Volkswagen Saint-Nicolas, votre concessionnaire de confiance sur la Rive-Sud. Ça clique avec Saint-Nic.
OK, alors on commence avec les meilleures offres locales au meilleur prix. Choisis et négociez pour vous par mercado.fm.
Obtenez une boîte festive, tant des sucres pour 2 ou 4 personnes à partir de 74 $ chez la Cité Agricole.
Adjugé, prochaine offre.
Procurez-vous un certificat cadeau de 100 $ pour 50 $ au Pizzé Délic Quartier.
Adjugé à monsieur, madame qui écoute la radio dans son auto, au boulot, n'importe où. Divertissement, soins, hébergement, restaurant. Mercado.fm.
En mars, Lunetterie Bélan vous en met plein la vue. À l'achat de 2 paires de lunettes avec verre progressif, recevez 1 monture gratuite. Détails sur place, un service haut de gamme et les plus belles lunettes au meilleur prix. Lunetterie Bélan, plein la vue. Marie-France Proulx, opticienne.
Le jeudi 14 mars, habillez-vous pour jouer dehors à l'occasion du cocktail aux flambeaux au profit de la Fondation du Collège des Hauts Sommets. Joignez-vous à nous pour une randonnée aux flambeaux, suivie d'une soirée gourmande et unique à thématique forestière. Votre participation permettra aux adolescents du Collège des Hauts Sommets d'obtenir le soutien nécessaire pour s'épanouir sans limite. Aidez-nous à faire toujours plus, toujours mieux pour eux. Soyez des nôtres et inscrivez-vous au jedonneenligne.org.
Découvrez L'Allier, le nouveau projet des immeubles Roussin à Lévis, au cœur du quartier Humano. Des condos locatifs vibrants conçus avec soin pour être votre allié au quotidien. Livraison juillet 2025. Visitez votreallier.com dès maintenant pour consulter les plans.
Hey, savez-tu ça? Le bar d'Orsay Saint-Ville est devenu le Québec Brou de Charlebourg. Un resto fraîchement rénové pour tes déjeuners, dîners ou soupers. Profite de bonne bouffe à bon prix, en bonne compagnie. Québec Brou, rue des Bouvreuils, coin Henri Bourassa.
La nouvelle web radio de Boulevard.
Parce que ce que ta voisine de cubicule a fait en fin de semaine passée, tu t'en crois.
La nouvelle web radio de Boulevard. À 2 clics du bonheur.
Boulevard 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Ce soir, sur les ondes de Boulevard 102.1, j'ai le plaisir, en fait, l'honneur de passer la soirée en compagnie de François Paradis. Jusqu'à maintenant, comment ça se va? Comment ça va, M. Paradis? Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait d'entrevue.
Oh, ça va mal, gars. Je me sens mal. Ça n'a pas de bon sens. Que fais-je ici? Que suis-je? Qui suis-je? Où vais-je? Non, sérieux, c'est une piqûre, ça, Yannick.
Ouais.
Ben, tu le sais, tu le fais. Puis je pense que tous tes collègues le diront également. C'est une piqûre. Alors, tu reprends une première bouchée, puis tu dis, bon Dieu, j'en veux une deuxième, j'en veux une troisième, j'en veux une quatrième. Alors, ça m'habitera toujours.
Ouais.
La radio, les médias électroniques, ça fait partie de moi.
Mais ça s'entend que vous aimez ça. Je veux aborder avec vous la politique en général. Je veux pas aborder la coalition Avenir Québec, Parti libéral, ça, c'est pas le genre de choses qui m'intéresse. Je veux avoir votre vision des choses sur ce que vous pensiez qui était la politique avant d'y être à l'intérieur. Puis une fois que vous êtes rendu à l'intérieur, vous avez dit, OK, c'est ça, la politique. C'était quoi au départ que vous pensiez que c'était la politique? La job de député qu'on disait être une job extrêmement exigeante, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Ouais. C'est exigeant, c'est sûr, puis c'est pas pour rien qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui se questionnent sur leur suite d'aventure ou de travail et tout ça, la suite des choses. Parce que ça aussi, ça a changé, parce que ça se fait autrement. J'ai eu un beau privilège aussi au départ d'avoir qu'on me confie à un moment donné tous les dossiers de santé, les dossiers des aînés, les aînés, ça fait partie de mon ADN également, mm-hmm. de voir comment ils sont traités, qu'est-ce qu'on peut faire pour elles, pour eux, la santé en général. J'ai des gens qui me demandaient de travailler à préparer un forum avec eux sur l'équité en santé, etc. C'est encore des dossiers qui me font vibrer. Alors, j'ai eu un rôle qui m'a permis de continuer à rester près des gens. C'était ça, le but de l'exercice. Je voulais pas faire de la politique pour un titre, pour un regard. Je voulais faire de la politique dans l'esprit de continuer à améliorer les choses pour celles et ceux qui nous entourent, pas qui m'entourent, qui nous entourent. Avec fondamentalement une vision globale sur comment améliorer les choses. Puis aussi, surtout, beaucoup comme défi de faire en sorte de redonner la place du citoyen dans cette vaste machine-là. Et quand j'ai décidé de demander, ou en tout cas d'être nommé à la présidence, quand j'ai offert mes services comme président de l'Assemblée nationale, il y avait deux choses qui me tenaient à cœur. C'était ça, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens comprennent que ce qu'on appelle la maison du peuple, la maison citoyenne, c'est vraiment la leur. Ce qui fait qu'avec le nouveau pavillon d'accueil à l'Assemblée nationale, maintenant, toutes les activités qui s'y passent sont issues d'idées citoyennes. Alors, les citoyens prennent possession de leur environnement. L'Assemblée nationale, c'est l'endroit où travaillent les députés. Mais c'est la maison des Québécois et des Québécoises.
Est-ce que c'était très exigeant, vos premières journées en tant que député? Est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez? Parce que moi, ce qu'on me dit pour des gens qui sont devenus députés, les premiers jours, on est vraiment incertain de ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de formation pour 101 pour le député en général.
Il faut comprendre la machine, il faut prendre le temps de la comprendre. Il faut prendre aussi... faut se rappeler qu'on a le droit de se tromper, qu'on ne peut pas tout savoir, c'est clair, ça c'est dans toutes les choses. Puis oui, au demeurant, surtout davantage, parce que quand tu es un député... collé sur l'Assemblée nationale, puis collé sur ton comté. C'est quand un député est aux Îles-de-la-Madeleine, tu sais, bon, et vient à Québec pour 4 jours parce que, bon, on siège et tout ça, ben, le 4 jours où il est à Québec, il est à Québec, tu sais. Le député de la région de Québec, qui est collé sur son comté, quand il finit son Assemblée nationale, il traverse dans son comté pour des événements, là.
Ouais.
Alors, tu sais, oui, c'est très demandant en ce qui concerne le temps, la chronologie des événements. En même temps, faut apprendre quelque chose. Puis ça, je l'ai mis en pratique assez rapidement. Tu peux pas être partout tout le temps. Tu peux pas être partout longtemps. Les gens t'en veulent plus aujourd'hui, là. Moi, je disais souvent à des députés qui me rencontraient ensuite, quand j'ai passé quelques années, j'ai dit, donnez-vous le droit de préserver ceux qui vous entourent en disant à ceux que vous rencontrez que vous allez prendre une santé avec, vous allez prendre le temps de jaser un peu, mais ensuite que vous allez retrouver votre épouse, votre fils, que vous allez à un événement de famille, etc. Puis les gens t'en veulent pas. Les gens comprennent, en tout cas moi je le sens de même, si je me trompe, c'est ma vision, mais la majorité des gens se disent, hop, il protège les gens qui l'entourent, il prend soin des gens qui l'entourent, il nous ressemble. Et je pense que c'est un guide, ça, dans la vie. Si t'es omniprésent, il y a des gens qui vont dire, puis même pas, ils le disaient pas, souvent des gens disent, ouais, ben, si tu restes pas dans son temps, il y a des gens qui vont dire, ah, il y a un venu pour... Non, tu viens, mais t'es là sincèrement, t'es en qualité plutôt qu'en quantité, mais t'es vraiment là. T'es vraiment là avec ton sourire, t'es vraiment là avec ton écoute active, t'es vraiment là pour prendre conscience de problèmes qui te sont présentés, de tenter de trouver des solutions, c'est la même chose. Tu ne peux pas te donner la pression de tout pouvoir régler. C'est impossible.
Est-ce que les gens étaient durs envers vous à partir du moment... Parce que là, vous étiez une personnalité publique, qu'on entendait à la radio, à la télé. Après ça, hop, il devient politicien, puis il commence à prendre des décisions pour notre comté. Là, je le vois à l'épicerie. Est-ce qu'il y a des gens qui se permettaient d'aller peut-être un peu plus loin qu'avant?
Écoute, je te disais tantôt, puis je peux rien que parler de mon expérience à moi, mais je veux dire, j'ai 35 ans de télé où je suis... J'ai commencé la télé en 1984. Je l'ai arrêté en 2012-2013.
Hein? Vous étiez avec les grands voiliers, je pense. Hein?
Ah, les grands voiliers dans le temps de la radio.
Oui, oui, en 1984.
J'ai fait ça aussi. Ben, ouais, absolument. Ça. Écoute, je me rappelle, on a
Il
fait...
Il n'allait pas avoir de stationnement jusqu'à Drummondville.
Ouais, c'est ça, dans le temps. Mais je me rappelle d'avoir suivi les grands voiliers en hélicoptère. Ben, oui. En tout cas, bref. C'est le temps. En tout cas, tellement d'histoires dans la tête. Mais de fait, c'est... Tu peux pas tout régler, tu peux pas tout solutionner. Tu deviens... Il faut que les gens comprennent que tu es un facilitateur. Et un facilitateur, ça permet de trouver son chemin dans un environnement souvent complexe pour arriver à des solutions. Alors, à ta question, est-ce que des gens s'arrêtaient pour me dire « C'est pas correct, ce que vous avez fait... » Très honnêtement, puis je le dis très humblement, ça m'est pas arrivé.
OK.
Dans le pire dans les pires des moments, les gens venaient me raconter, me dire ce qu'ils en pensaient, puis me demander conseil, mais jamais personne m'a dit ce que tu as fait là, c'est mauvais. Puis même au chapitre de la partisanerie, tu sais, parce qu'inévitablement, on est dans un contexte où il y a des gens qui sont d'une allégeance ou d'une autre,
ouais.
Même là, j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je veux dire, quelqu'un qui veut être méchant pour être méchant, je gagne quoi là-dedans? Ça donne quoi d'embarquer? Ça donne quoi de débattre quand il n'y a plus d'arguments puis il n'y a plus rien? Alors, souvent, tu dis, ben, écoutez, c'est votre point de vue. Je respecte ce que vous me dites, mais je le partage pas.
Puis ensuite, accéder au poste de président de l'Assemblée nationale, c'est un step supplémentaire. Les collègues, est-ce qu'ils vous voyaient comme vous étiez lorsque vous étiez député ou ils prenaient comme une certaine distance? Puis vous aussi, vous deviez prendre une certaine distance?
Absolument. Quand le président doit avoir un niveau d'impartialité qui doit pas être mis en doute, alors de faire en sorte qu'on soit honnête pour tous les collègues de tous les partis existants.
Est-ce que c'était dur pour vous?
Mais il faut prendre des décisions quand même.
Parce que vous êtes chaleureux comme individu, vous êtes très accessible comme individu. Est-ce que c'était dur pour vous de passer de député à président? Puis là, ben je dois me retirer parce que je ne peux pas être constamment en contact avec une couleur ou un autre.
Ben, c'est pas le contact. T'es quand même là. C'est que il y a toute une notion en politique de perception également. Alors, ouais. faut juger, puis il faut travailler au niveau de la perception. Mais je suis resté proche avec les gens de tous les partis, avec les gens du parti auquel j'appartenais, avec les gens des autres partis, avec encore une fois la volonté commune. J'ai l'air d'un bon gars. Là, je me raconte, j'ai comme l'impression que le gars il raconte, c'est comme si tout était parfait.
Ah, je vous ai déjà vu vous fâcher.
Tout n'a pas toujours été parfait, tout n'a pas toujours fonctionné comme je le souhaitais. Moi, je pense qu'on a encore du chemin à faire. Je pense que les gens doivent avoir encore plus de place.
Ouais.
Je pense qu'il y a des mécanismes également démocratique, dont on se sert, ben, qui existe, mais dont on ne se sert pas assez. Je pense que la vraie pression, elle vient des gens dans la rue quand ils décident de s'exprimer, puis ensuite, ça franchit l'étape de celui et celle qui reprendra au bon les mots qui auront été dits, les solutions qui auront été avancées, mais toujours dans l'esprit de vouloir faire avancer les choses. Donc, il y a une espèce de travail de collaboration. Moi, je suis un gars de collaboration. J'aime pas les gens qui se braquent. Ou si quelqu'un se braque, je souhaite qu'il m'explique pourquoi. Puis si c'est assez bon pour que je vois les choses différemment, ben je suis assez intelligent pour modifier ma vision. Mais je veux dire, je suis dans cet esprit-là. Et je disais souvent aux gens, respectez-vous, puis pensez toujours, parce que les gens ont toujours l'impression que c'est la période de questions, mais je veux dire, à la présidence, on fait beaucoup de diplomatie internationale, ouais. J'ai développé des contacts avec les gens, le monde francophone, là, et puis Dieu sait qu'on doit travailler là-dessus également, notre langue et tout ça, mais j'ai développé des contacts extraordinaires avec les pays francophones, j'ai été président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie également, ce qui m'a permis de rencontrer des présidents d'assemblées de partout, mais d'avoir la vraie volonté de discuter puis de faire avancer. À se braquer pour se braquer, parce qu'on n'a pas le même chandail de hockey, parce que... moi, je suis plus là. Je suis pas là. Puis je pense qu'on va gagner de plus en plus à faire en sorte que ce travail de collaboration-là, mais ça se travaille sur du long terme, va faire avancer davantage les choses. Puis les gens s'intéressent à la politique. Tu vois, on dit les gens ne s'intéressent pas à la politique. Les jeunes, les parlements jeunesse, les camps d'été qu'on faisait à l'Assemblée nationale, qui se font encore, là, il y a des camps d'été à l'Assemblée nationale. Madame, monsieur, si vous ne connaissez pas, renseignez-vous parce que les jeunes trippent à faire ça. Prendre possession du Salon Bleu, c'est quelque chose, ça marque dans une vie. On a des parlements jeunesse. Regarde, j'entreprends la semaine prochaine, on m'a demandé d'aller parler de notre système politique et de notre démocratie aux nouveaux arrivants. Leur expliquer comment ça se passe. Alors, je vais me mettre à rencontrer des groupes de nouveaux arrivants pour leur expliquer c'est quoi un député, c'est quoi notre assemblée, c'est quoi notre démocratie, qu'est-ce qui se passe ici au Québec, qu'est-ce qu'on a de plus qu'ailleurs. Et je continue à l'occasion à m'impliquer dans des dossiers qui ont été les biens plus en santé dans la mesure où, ça s'y prête. Mais c'est ça. On a du chemin collectivement à faire, puis je le dis souvent... Puis je le disais souvent à mes collègues, quand il se passait quelque chose au Salon Bleu, demandez-vous comment les gens perçoivent ce qui se passe. Est-ce que vous êtes fiers de ce qu'on fait dans la mesure où on pousse une idée, mais qu'on la pousse sainement, correctement? Puis je pense qu'on est capable à ce moment-là d'aller chercher, puis de faire des adeptes, puis de modifier des choses, puis que les gens se sentent impliqués. Tu sais, le but de l'exercice, quand je te propose quelque chose, c'est pas nécessairement que mon idée remplace la tienne. Mais ce qui va me faire plaisir, c'est que tu as pris le temps de m'écouter et que tu tiens compte de ce que je te propose. Ça ne changera peut-être pas, mais j'aurai le sentiment d'être allé au bout de ma volonté, de ma vision à moi. après ça, le chemin est fait. Je veux dire, c'est... Alors, oui, c'est demandant. Oui, il y a des... Écoute, on a eu des discussions, on a des décisions à prendre. Il y a des gens, souvent, il y a des gens qui n'étaient pas contents. Là,
j'ai pas de l'émotion.
Les temps n'étaient vraiment pas contents. Mais moi, je m'attarde pas à ça. Je ne suis pas quelqu'un qui va rester... Okay. À moins que quelqu'un soit vraiment de mauvaise foi, je reste rarement en froid, à moins que je ne chante pas à personne. Puis là, à ce moment-là, regarde, okay. Je veux dire, tu fais pas exprès, t'as pas besoin.
Je comprends très bien. Vous avez fait les deux, vous avez fait les médias, la politique. Est-ce que les médias sont cruels parfois envers les politiciens?
Les médias sont pas faciles. Non, les médias sont pas faciles. Puis en même temps, ils font leur job. Mais tu peux faire changer les choses. Il y a un élément qu'on a fait sur lequel je tenais également, c'est qu'on puisse s'ouvrir sur la transparence. Alors, gérer les dépenses, que tout soit public, que ce soit connu, qu'on soit transparent, qu'on gère bien. Puis les gens demandent ça, je fais la même chose à la maison. Tu sais, quand j'investis, j'essaie d'investir le mieux possible. Puis ça me coûte le moins cher, mais que j'en ai pour mon argent. Puis bon, mais cet élément-là, on l'a poussé, on a fait en sorte que les choses changent. Maintenant, est-ce que ça pourrait être changé encore? Probablement. Puis ça le sera peut-être. Mais... Alors, quand les journalistes, par exemple, me disaient ou me demandaient des informations ou qu'on modifie les choses pour qu'ils puissent avoir les réponses à leurs questions sans être obligés de courir après réponse, tu viens déjà de faire en sorte que le modus operandi, il change, là. Tu sais, si tu te révèles à moi, je ne commencerai pas à faire semblant ou je n'inventerai rien. Tu t'es révélé, je suis avancé, tu sais. Alors, c'est tout ça. C'est une vision, mais moi, j'ai ma vision média très humaine, collé sur les gens en ayant besoin d'eux puis d'elles, puis j'ai transposé cette volonté-là dans mon autre cheminement, puis somme toute, je veux dire, je suis très content de ce que j'ai fait.
Vous avez eu une belle vie, vous en reste encore longtemps à vivre, on va vous le souhaiter, puis on va se le souhaiter aussi. Moi, je souhaite un jour vous réentendre dans les médias en tant qu'auditeur ou en tant que téléspectateur. Comment va votre fils aujourd'hui?
Écoute, c'est William va très bien, je lui parlais
votre
hier.
Votre plus belle fierté.
Écoute, Will, il fait ses trucs, hein, je veux dire. Ouais. Il travaille dans le monde du numérique.
Ouais.
Belle carrière, ça va bien, ça avance au maximum. J'ai rien à dire.
François Paradis, es-tu grand-père? Là?
Non, mais tu sais, ça... J'ai l'impression, là, je ne veux pas prendre des décisions à place de William, puis surtout de faire en sorte que Marilyn m'en veuille par la suite, là. Mais ils ont deux beaux plans de carrière,
ouais.
Puis j'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est une priorité pour les deux, mais j'ai un petit bébé chien, par exemple.
Ah ben, il s'appelle
écoute, moi, Bali. Une petite morquille. T'es bien chanceux qu'on soit pas à la télévision parce que je leur ai montré des photos, j'en ai à tous les jours. Et quand je pars en voyage un peu plus longtemps, je le fais garder, je m'en ennuie, mais...
Mais l'amenez-vous avec vous.
Mais tu sais que je suis rendu méga sensible. Je sais pas, ma sensibilité c'est exponentiel. Je vois des vidéos là, d'animaux maltraités. Là, ouais. Je veux dire, écoute, je viens les yeux pleins d'eau. On était en voyage, là, je suis arrivé récemment, puis il y avait des chiens sans abri. Une maman avec ses deux petits chiens. On était là acheter de la nourriture à l'épicerie, puis tous les matins, on allait leur porter de la nourriture. Mais c'est... Ça aussi, tu sais, c'est que je suis gaga de mon chien, je suis fier de mon fils, je suis heureux avec ma famille, la conjointe.
Vous voyagez, vous avez un beau bronzage.
Ouais, ben là, celui-là, il est pas pire. Là,
celui-là, il vient d'où, celui-là?
Le bronzage?
Ouais.
T'es à Porto Rico, cette fois-ci.
Porto Rico, j'étais là il y a ça un mois.
Et tu vois, Porto Rico.
Bel endroit.
Bel endroit, puis... C'est drôle, moi j'ai toujours dit à mon fils, parce que j'ai eu la chance, j'ai beaucoup voyagé avec William, on est allé père-fils, on est allé en Pologne, on est allé au Royaume-Uni, on est allé visiter le camp d'Auschwitz ensemble, on a fait quand même pas mal de choses, et je disais toujours, quand t'arrives quelque part, arrête-toi, prends le temps de regarder les gens. Toutes les villes du monde ont une grande place ou une place centrale. Tu t'assois, tu passes 2h30, tu fais rien que regarder les gens. Puis c'est la même chose à Porto Rico. Tu sais, la façon de vivre est tellement différente. J'étais sur la route, évidemment, j'avais loué une voiture. Et puis, écoute, les gens se laissent passer. Ça repart plus, c'est lent. Puis, tu sais, au départ, tu dis, ben voyons, ils avancent donc. Ben, mais c'est ça, tout est plus lent, tout est plus... C'est pas la même chose. On se klaxonne pas après. Tu laisses passer une dame... Elle marche lentement quand même. C'est correct, c'est dans l'air du temps là-bas. Et c'est le fun d'aller chercher ailleurs certains des éléments qui nous disent souvent « déstressons un peu ». Ça nous donne quoi? Est-ce qu'on va être plus efficace avec plus de stress? De temps en temps, ça fait du bien de respirer.
Vous avez de l'air très relax.
C'est pas pire, mais je continue à m'adapter au changement. C'est pas encore gagné.
De vous entendre. Un gros merci pour ce 60 minutes, François Paradis. C'est un honneur de vous recevoir. Je sais que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas accordé d'entrevue. Vous étiez encore à l'Assemblée nationale que je vous achalais, puis vous n'étiez pas au courant. J'achalais Pascal. Pascal, j'aimerais ça parler avec M. Paradis. Puis il a dit, à un moment donné, ça va arriver. Là, il se garde un droit de réserve, mais quand il partira, ben peut-être que tu auras la chance de l'avoir. Puis aujourd'hui, ben vous êtes devant moi.
Ben, c'est un grand plaisir.
Puis, au grand plaisir des auditeurs aussi de Boulevard qui vous remercient.
Puis, regarde, continue comme ça, puis oublions pas que les gens qui nous entourent, puis ceux qui nous écoutent, puis on est là pour eux, puis ils sont là pour nous aussi, alors c'est mutuel, puis tu peux pas danser une valse quand t'es pas au moins deux.
Ah ben voilà, c'est dit. Je vous souhaite de passer une agréable soirée sur les ondes de Boulevard 102.1. Nous, on se rejase demain à 11h pour ce qui est de Marceau le midi. Merci d'avoir été là. Bye-bye.